jour, de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs libres et curieux, pour cette dernière semaine estivale de rediffusion. Nous allons justement faire appel à votre liberté d'esprit et même de ton, en commençant aujourd'hui par parler d'amour. De l'amour, c'est le titre alléchant d'une exposition qui ne l'est pas moins au Palais de la Découverte à Paris, prolongée jusqu'au 27 septembre, et qui nous interroge sur l'amour à l'ère du virtuel et des neurosciences. Qu'est-ce que les sciences, toutes les sciences biologiques, neurologiques, psychologiques, sociologiques, qu'on appelle aussi désormais sciences affectives, ont à nous dire sur ce mystérieux sentiment, partagé ou pas, à la fois moteur et source de nos vies? Il sera donc question de cœur, de corps et de sexe, mais aussi du cerveau, le grand maître de l'amour et de la sexualité, qui se conjugue désormais en ligne sur les réseaux sociaux dédiés. Qu'est-ce que ça change à nos amours? Voilà ce que nous nous étions demandé en janvier dernier avec la sociologue Marie Bergström, auteure d'une formidable enquête « Les nouvelles lois de l'amour, sexualité, couple et rencontres au temps du numérique » et la neuroscientifique et sexologue Aurore Malek-Arras autour de la question « Comment parler d'amour aujourd'hui ?» Bienvenue pour le faire ensemble en éloignant les trop chastes oreilles.
C'est le hasard qui détermine les grandes histoires d'amour.
Depuis toujours, tu me bassines avec tes théories à deux balles sur l'amour, la rencontre parfaite.
C'est ce qu'elles disent de nous. On a un sexe à la place du cerveau.
Ça va, je te dérange pas là?
Moi j'assume. Quoi? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait l'amour?
Je dirais entre 10 minutes et un quart d'heure.
Moi, le prochain que je chope, je lui donne pas plus de 5 minutes pour me faire bouffer l'oreiller.
C'est grave.
Grave en manque, c'est clair.
Je lui tire des gonzesses.
Ah, Michel, c'est des années de travail, tu vas m'en prendre?
On a vu son regard.
Je suis sûre que c'est quelqu'un qui ne manque qu'à révéler la partie sensible de son âme.
Une bite!
Faut que tu penses comme une bite, faut que tu regardes comme une bite.
C'est quoi un regard bite?
Il y a plus fin. Pour parler d'amour, je vous l'accorde que cette bande-annonce du film L'amour, c'est mieux à deux. Mais au moins, nous voilà entrés dans le sujet. Bonjour Aurore Malek-Arras.
Bonjour.
Bonjour Marie Bergström.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour parler de l'amour, donc autour de cette grande exposition au Palais de la Découverte à Paris. Marie Bergström, vous êtes sociologue, chercheur à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, auteur, autrice d'un ouvrage remarquable et remarqué aux éditions La Découverte, Les Nouvelles Loi de l'amour, sexualité, couple et rencontre au temps du numérique. C'est la première enquête du genre. Et ce qu'on peut dire avant de rentrer dans les détails, c'est que nos vies désormais numériques, est-ce que ça a changé les façons de se parler d'amour ou de parler d'amour?
Je pense que ce qu'on peut dire plus généralement, c'est que l'amour et le couple a beaucoup changé au cours des, pas uniquement avec le numérique, mais même depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années. C'est-à-dire, c'est quoi? Ce sont des tendances, on va dire, démographiques assez générales. On se marie moins, on se sépare plus, on vit souvent plusieurs histoires d'amour dans sa vie. Donc, il y a vraiment des changements très profonds qui changent la manière de faire couple. Mais ce qui est très frappant, c'est que ça n'a pas forcément changé notre vision de l'amour. Parce que d'un point de vue sociologique, l'amour, c'est deux choses. C'est à la fois un récit, c'est un narratif. C'est une manière de se raconter les histoires d'amour, mais aussi c'est une manière de faire. Et vraiment, sur le côté, la manière de faire, il y a eu des bouleversements. Mais sur les imaginaires amoureux, ce qui est assez frappant, c'est qu'on a une vision de l'amour qui est relativement stable dans le temps. C'est quoi? C'est l'idée d'un amour aveugle, un amour singulier, que l'idéal, c'est toujours un amour qui est dur, même si c'est moi le cas, mais ça reste quand même un idéal très très fort. Donc ce qu'on peut dire, c'est que oui, les choses ont changé dans le fait, mais on reste finalement avec une vision de l'amour romantique qui date du 19e siècle et qui est toujours avec nous et qui marque notre manière de penser les relations amoureuses
comme
très
si
fortement.
On n'avait pas intégré finalement, comme si on n'avait pas intégré finalement tous ces changements.
Ça bouge petit à petit, mais effectivement, je pense qu'une des choses qui est très frappante avec les sites et les applications de rencontres, ce sont des services qui ont été très critiqués, qui le sont toujours. On parle d'une consommation amoureuse, une peur de l'engagement, que c'est la fin de l'amour, voire la mort de l'amour avec ces services. Et ce que ça montre, c'est qu'effectivement, ces services, ça bouge un peu la manière de faire et ça met un peu au défi les imaginaires amoureux, mais ça montre du coup aussi notre très fort attachement à la vision romantique de l'amour qui n'est pas du tout mort, qui est très vivace et qui continue à vraiment à former, à structurer notre manière de penser les relations intimes.
Mmh. Entre vision et réalité autour de l'amour. Aurore Malécaras, alors vous êtes sexologue, docteur en neurosciences, auteur entre autres dans le numéro spécial que la revue Le 1 avait consacré à nos amours d'un article intitulé « Femmes et hommes aiment-ils de la même façon ?» Point d'interrogation, alors on va y venir. Mais est-ce qu'on peut dire selon vous que si les questions d'amour restent le même, peut-être les réponses ou les manières d'en parler ont changé dans votre cabinet, puisque Marie parlait à l'instant d'une vision toujours romantique, même si dans les faits c'est plus toujours le cas. Qu'est-ce que vous diriez à ce sujet-là? Qu'est-ce que vous disent ceux et celles qui viennent vous consulter?
C'est très variable en fonction des problématiques qui nous sont apportées. Déjà, la première chose qu'on peut voir de manière beaucoup plus générale, c'est l'impact de la liberté sexuelle et de tout ce qui a été mis en place au XXe siècle, qui fait que déjà pour des questions de sexualité, les gens ont beaucoup moins de tabous, beaucoup moins de freins et en parlent de manière beaucoup plus libre. Ça crée aussi entre autres beaucoup d'attentes et beaucoup trop de pression au niveau de la sexualité qui vient en plus s'ajouter, je dirais, à l'idéal de l'amour romantique. Mmh. Maintenant, on a une autre injonction qui est en plus d'avoir un couple fort, solide, beau, idéal. On a en plus un autre aspect de l'idéal qui doit être un idéal sexuel.
Réussir sa vie amoureuse et réussir sa vie sexuelle.
Voilà, donc ça c'est quelque chose qui... Et aussi amené assez souvent en thérapie.
Et vous avez l'impression que ça, c'est quelque chose qui a changé ou qui s'est de plus en plus développé. Il y avait moins, on était peut-être moins libre, mais revers de la médaille, on est heureusement plus libre, mais on est plus soumis à une pression finalement.
C'est exactement ça. Il y a vraiment une injonction à la jouissance, une injonction à l'orgasme, une injonction à explorer beaucoup plus de choses d'un point de vue sexuel, sans que des fois, et surtout pour des femmes, la question se pose de est-ce qu'on a envie d'aller aussi loin, est-ce qu'on a envie de faire ci, est-ce qu'on a envie, je pense par exemple à telle ou telle pratique d'échangisme ou de choses comme ça, avec des fois des partenaires qui ne sont pas au même niveau, qui n'ont pas envie de faire les mêmes attentes, qui n'ont pas les mêmes attentes, qui n'ont pas envie de faire les mêmes choses. Donc du coup, ça amène encore plus de complexité et encore plus de poids, en fait, au couple.
Déjà que ce n'est pas simple, l'amour.
Déjà que c'est
mais
pas
alors
simple.
Là, c'est encore plus compliqué. Autour de la question, comment parler d'amour? De quoi parle-t-on vraiment? D'ailleurs, d'amour, de sexualité, d'attachement ou de tout cela à la fois? Première piste de réponse non exhaustive recueillie auprès des visiteurs de l'exposition De l'amour au Palais de la Découverte à Paris par notre reporter Inès Edel Garcia.
Pour vous, c'est quoi l'amour?
Quelque chose qui sert à faire des enfants.
Ça va être quelque chose qu'on peut représenter en fonction de nos pulsions, nos hormones, pour une personne donnée.
Alors pour moi, l'amour, justement, c'est très difficile à définir parce que je pense que ça dépend vraiment des personnes, du ressenti. Justement, on en discutait avec mon amie tout à l'heure. C'est quoi la différence entre « je suis amoureux » et « j'aime » ? Être amoureux, c'est les débuts, et c'est l'excitation du début. Et qu'aimer, c'est vraiment, on sait qu'on aime la personne parce qu'on est prêt à dépasser plein de choses pour cette personne.
Toi, tu as déjà été amoureux ?
Je suis encore.
Tu l'es encore ? Et alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on est amoureux ?
On ressent qu'on a envie de toujours être avec la personne.
Je pense que notre cœur nous le dit, mais après, on a aussi des réactions qui le montrent. De l'affection, de l'empathie, du désir, de la passion.
C'est stress en fait, et excitation.
C'est un peu comme on dit, de manière très simple, ressentir un peu les papillons, le manque aussi de quand on voit pas la personne.
Et l'amour, qu'est-ce que ça fait au cerveau à ton avis?
Un bordel pas possible. Dopamine, sérotonine, oxytocine. On se sent protégé, on peut avoir peur, on est surexcité. Là.
Alors justement, tu fais le distinguo entre amour et désir?
J'aime ma mère et je ne désire pas maman.
Aimer, justement, moi, ça pose la question des sentiments du cœur. Et désirer, c'est plus dans le sens sexuel pour moi quand on en parle. Et du coup, on peut totalement désirer quelqu'un sexuellement sans pour autant avoir des sentiments amoureux.
Je vous ai vu sourire toutes les deux. Qui veut réagir? Marie Bergstrom, peut-être.
Je pense effectivement que sur la distinction entre amour et désir, en fait, l'exposition le montre très bien. C'est-à-dire que le terme amour, ça dépend des langues aussi, mais en français, ça parle de l'affection. Et on peut se ressentir de l'affection forte pour beaucoup de personnes différentes, des familles, de la famille, des amis, des partenaires, alors que le désir renvoie plus à la sexualité. Donc, et finalement, le couple réunit les deux.
Et justement, dans votre enquête, Marie Bergström, votre enquête sociologique hein, sur l'amour au temps du numérique, les nouvelles lois de l'amour avec Internet, Mythic et autres Tinder surprises, c'est votre constat que finalement, les scénarios amoureux ou plutôt sexuels ou plutôt du désir sont un peu différents, que ça se passe autrement, les rencontres, le début, de fait ça se passe autrement.
Oui, c'est-à-dire que les rencontres en ligne suivent finalement une trame très différente. Des rencontres ordinaires. Donc, c'est quoi ? C'est d'abord qu'on se découvre à distance. Donc, on se découvre d'abord avec une photographie, avec un profil. On apprend finalement des informations, on va dire, objectives sur la personne avant de la voir en vrai. Donc, ça, ce sont des choses qui sont communes pour tous les espaces numériques. C'est une manière différente d'apprendre à connaître les gens. Ensuite, il y a autre chose qui est très spécifique là, pour le coup, pour les sites et les applications de rencontres par rapport à d'autres types de plateformes numériques. Et c'est que ce sont des espaces qui sont dissociés de notre sociabilité ordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on rencontre sur ces espaces des personnes qu'on ne connaît pas par ailleurs et qu'on ne risque pas de revoir souvent si on ne le souhaite pas. Ce qui est très différent des réseaux sociaux, justement, c'est plutôt de relier des cercles d'amis sur Internet.
Au fond, ces plateformes-là, elles permettent de rencontrer des gens pour une fois, pour une nuit, et sans que personne ne le sache, ça préserve l'anonymat et ça peut permettre d'aller quoi ? Plus loin ?
Oui, c'est ça. Et c'est vraiment une des caractéristiques qu'on a peut-être moins soulignées en parlant de ces nouveaux services, mais qui, il me semble très, très important. C'est ce que j'appelle une forme de privatisation de la rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire effectivement qu'on place la rencontre en dehors de son cercle de sociabilité. C'est quelque chose qui devient à part. Et c'est très, très... c'est frappant et c'est nouveau parce que, pour le coup, jusqu'ici, traditionnellement, les rencontres ont toujours eu lieu dans des espaces de vie ordinaires. Donc, ça veut dire qu'on se rencontre au travail, dans des associations, dans des boîtes, lors des sorties, les loisirs, etc. Et ça veut dire que la rencontre amoureuse a toujours été associée à des contextes de sociabilité. Alors que maintenant, pour la première fois, on distingue les deux. D'un côté, la sociabilité, de l'autre côté, la sexualité. Et ça, c'est vraiment un changement assez significatif. Et ça fait notamment, comme vous l'avez dit, on se permet notamment plus de choses sur Internet. Non pas parce qu'il y a une forme de désinhibition numérique, comme on le dit parfois, mais plutôt parce que c'est une sphère quelque part un peu à part, plus discret et plus insulaire finalement. Donc on se permet plus de choses dans cet espace un peu protégé de regard.
Et comment est-ce qu'on se parle d'amour sur ces espaces-là ? Qu'est-ce que ça change pour nos amours ? Nouvelle question pour vous, Marie Bergström et Aurore Malekara, soulevée par notre confrère de Science et Avenir, Mathieu Novak.
Est-ce que la durée entre la rencontre et le passage à l'acte sexuel a changé avec les nouveaux modes de rencontre, via les réseaux sociaux notamment ?
Alors, via les réseaux sociaux ou via ces plateformes de rencontres, est-ce que justement, on disait on va plus loin, est-ce qu'on va plus vite ?
Oui, ouais, très nettement oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit, on a pu l'établir scientifiquement avec des grandes enquêtes. On constate très clairement que lorsque la rencontre débute sur un site ou une application, la sexualité arrive plus vite. Donc ça veut dire qu'il y a moins de temps entre le premier contact et le passage à l'acte, pour ainsi dire. Donc il y a une forme de, on va dire, une accélération, ou on peut dire au contraire une forme de diminution de la phase de séduction. Et c'est effectivement lié au fait que c'est une sphère où on rencontre des personnes. Déjà, on sait pourquoi on est là. On sait que l'autre personne est célibataire. Et ce sont donc des personnes qu'on ne connaît pas par ailleurs. Et donc, on peut se permettre aussi d'avoir une relation sexuelle, on va dire, plus rapidement. Donc, on peut prendre un contre-exemple assez intuitif. Une rencontre sur le lieu de travail, c'est pas anodin. On ne se permet pas les mêmes choses. Et il y a des rencontres, mais c'est plus long parce qu'il faut un peu un tâtonnement et les gens sont beaucoup plus
prudents. Et c'est plus engageant, effectivement. On va revoir la personne, voilà. C'est plus engageant.
Donc en fait, les gens sont plus prudents lorsqu'ils connaissent cette personne et ils connaissent quelqu'un qui est proche de cette personne, alors que sur ces services, on peut aller plus vite parce que c'est protégé de regard, mais aussi il y a moins d'enjeux. Ce sont des histoires qui font moins d'histoires, finalement.
Vous êtes sociologue, hein, vous, Marie Marie Berson, donc vous n'apportez aucun jugement hein, là-dessus. Vous avez travaillé, on va revenir un peu sur votre méthode de travail, avec le site Mythique, pour ne pas le nommer, mais pas à leur service, c'est ça. Ils vous ont donné leurs données.
Oui, tout à fait. Non, moi, j'ai travaillé à partir de différents types de sources, donc des grandes enquêtes, des entretiens, mais j'ai aussi eu une coopération de longue date avec Mythique, avec des règles de jeu qui étaient extrêmement claires. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'avais une indépendance totale pour faire mes recherches, que j'ai publiées, que j'ai pu diffuser scientifiquement. Donc ça a été une manière d'utiliser, de regarder des données, évidemment anonymisées, évidemment confidentielles, jamais des données individuelles où on peut identifier des personnes, mais d'avoir un autre regard et qui s'est faite totalement dans les respects de l'indépendance de la recherche.
Oui, c'est ça. Vous n'aviez pas pour but de dire que c'est bien, qu'il faut y aller ou qu'il ne faut pas y aller. Ce n'était pas du tout votre propos,
De toute façon, de point de vue scientifique et sociologique, le discours n'est jamais normatif. Il s'agit de comprendre ce que les gens font, comment ils le font. Et pour ça, il y a différentes sources. Il y a des sources un peu traditionnelles, comme des grandes enquêtes qui font, par exemple, l'INED et l'INSEE, que j'utilise aussi. Mais aujourd'hui, il y a aussi de nouvelles sources qu'on appelle souvent de big data ou des données numériques, souvent produites par des entreprises privées. Lorsque ces données sont collectées dans le respect de la confidentialité et le respect de la vie privée des individus, et lorsque ce sont des données anonymisées, ça peut être une source pour comprendre le monde dans lequel on vit. Et c'est ce sens-là que j'ai travaillé avec...
D'autant que j'imagine que lors d'enquêtes, en face à face, les gens ne vous disent peut-être pas la même chose que ce que vous voyez dans les faits ou sur les données brutes.
C'est deux points d'entrée un peu différents en la matière. Lorsqu'on fait des entretiens ou lorsqu'on fait répondre à un questionnaire, par exemple, ce sont des gens qui déclarent ce qu'ils font. Avec les données numériques, c'est un peu différent. C'est plutôt d'observer ce qu'ils font. On étudie des traces de pratiques. Pourquoi c'est intéressant? C'est pas parce que les gens mentent, en fait. C'est plutôt que parfois, on ne sait pas très bien ce qu'on fait. Les gens ne sont pas forcément capables de dire ben voilà, je me connecte tant de fois par semaine, je discute avec tant de personnes, etc. Les gens, parfois, sont mauvais observateurs d'eux-mêmes. Donc, il ne s'agit pas, ce n'est pas du tout de l'idée d'aller finalement de dénicher ce que les gens font vraiment et que par ailleurs ils mentent. Ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt, en fait, avoir une autre manière d'observer des pratiques, observer des usages, notamment sur des choses où les gens ne savent pas très bien eux-mêmes. En fait, ils ne pourraient pas raconter eux-mêmes très précisément ces
choses. Et puis, des fois, on a des opinions là-dessus, sur qu'on se dit c'est bien, c'est pas bien, selon la génération à laquelle on appartient. Or, c'est pas ça le propos. Aurore Malécara, j'aimerais bien vous entendre réagir, justement. Est-ce que vous voyez-vous au quotidien avec ces nouveaux usages donc de ces plateformes de rencontres, avec ces rencontres plus rapides, plus anonymes, plus privatisées, différentes du reste, est-ce que ça se voit pour une sexologue dans les pratiques? Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez déjà ou est-ce que ça met plus de temps que ça à émerger?
Non, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en cabinet. Donc évidemment, quand des couples viennent me voir, c'est que forcément, moi j'ai aussi un autre biais qui est que moi j'ai des couples qui ont des problèmes. Donc bien sûr, c'est déjà ça
oui,
oriente.
Sinon
déjà...
on va pas chez un ou une
sexologue. Alors j'ai des fois des personnes qui viennent pour enrichir leur vie sexuelle. Voilà, mais la plupart du temps, s'il vient voir faire une thérapie de couple, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc c'est vrai que l'usage des nouvelles technologies amène aussi quelque chose qui est qu'en fait il y a plus de choix possible. Et quand on est face à un défi, à quelque chose qui est difficile dans notre vie de couple, là où en fait, on va dire, il y a l'époque de nos parents, etc., où nos grands-parents, on se mariait, puis on restait ensemble, ça bougeait pas. Là, il y a
aussi pour le pire. Hein.
Voilà. Mm-hmm. Et là, la possibilité de peut-être avoir mieux ailleurs et l'offre que propose tous ces services est quand même très très alléchante. Donc, avec en plus justement, on parlait tout à l'heure de cette libération sexuelle. La question d'aller voir ailleurs est beaucoup facilitée par la présence des réseaux sociaux, de Mythique, de Tinder, etc. On a Gliden aussi qui est un site spécialisé dans l'adultère. Donc du coup, la question des réseaux sociaux, enfin en tout cas des rencontres et de tous ces outils numériques est toujours latente, présente.
Et ça change la donne amoureuse.
Et il y a aussi la question de, il peut y avoir des traces d'infidélité
à travers
et oui.
les réseaux sociaux, à travers
des SMS,
donc du coup il y a c'est des choses que qu'on n'a pas dans les on va dire dans les livres ou des grands pionniers de la sexologie. Je pense par exemple à Masters et Johnson qui ont énormément travaillé sur les thérapies de couple, qui sont les pionniers des thérapies de couple, n'avaient absolument pas. Donc ça c'est quelque chose qui est nouveau pour nous en tant que thérapeute.
Changement de paradigme, hein, on va y revenir. Est-ce que c'est pareil dans le monde entier? Est-ce qu'on a aussi les mots pour s'exprimer, pour dire, pour faire l'amour? Si vous manquez de mots, chers auditeurs et chères auditrices, tout de suite, un petit rappel sonore recueilli justement dans l'exposition de l'amour au Palais de la Découverte par Inès Edel Garcia qui n'a pas résisté, et nous non plus, au jeu sur les expressions grivoises.
Se faire ripolliner le candélabre. Ça, franchement, je savais pas que c'était se faire une fellation. Pour moi, c'était pas ça. Il y en a une qui me semble très dans l'air du temps, c'est avoir fait une visite au président du Sénat, donc qui veut dire en fait mentir à sa femme. Et je trouve que ça relie en fait politique et infidélité. Et je trouve que c'est encore malheureusement dans l'air du temps.
Alors, faire miauler son chat, qu'est-ce que ça signifie?
Du coup, avoir un orgasme chez la femme. Parce qu'on utilise encore l'association au chat, quoi. Donc, on peut toujours comprendre cette expression. Après, les autres, remettre 100 balles dans le jukebox pour coïter une seconde fois. Donc ça, je connaissais absolument pas l'expression.
Et se laisser mâchouiller les pétales, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est se laisser faire un cunnilingus.
C'est assez poétique.
Oui, c'est vrai que c'est très poétique, je trouve.
Vous, madame, il y en avait que vous connaissiez?
Non, en fait, moi, aucune, mais je trouve ça très amusant et les mots, en fait, m'amusent. Défriser la chicorée, juste de le dire comme ça, ça peut être facile à redire. Ça donnait un fleur poussé, c'est gentil. Ça reste encore assez léger. Ensuite, mettre le pape dans Rome, je trouve que c'est amusant. Faire l'amour, bon, c'est bien, hein. C'est catholique, finalement.
Catholique ou pas, ces expressions grivoises, comment est-ce que justement la parole aussi s'est un peu libérée aujourd'hui? Vous le disiez, Aurore Malécaras, on assiste à la fois à plus de choix, à quelque chose de plus complexe, on parle peut-être plus librement. Alors, il y a toujours eu des expressions grivoises, hein, on les a entendues, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on parle plus facilement, pas seulement du sexe masculin, mais du sexe féminin notamment.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est, on doit vraiment à nos, comment dire, nos aïeuls féministes qui en fait depuis plus de 100 ans en fait ont vraiment fait un travail assez admirable pour la libération de la femme. Et ça change aussi beaucoup de choses depuis, on va dire, à peu près l'époque, on parlait tout à l'heure de l'époque bourgeoise. Les lignes ont beaucoup bougé depuis cette époque là puisque les femmes, surtout grâce à l'accès à la contraception, ont pu redéfinir leur place en tant qu'individu dans la société et non plus en tant que femme, en tant que corps social. Et donc ça a fait bouger énormément les lignes. Et ça peut d'ailleurs être un problème, en tout cas quelque chose d'intéressant à travailler, parce qu'on a beaucoup de femmes qui ont énormément bénéficié en fait de cette libération sexuelle, et les hommes qui en fait sont restés un petit peu plus à la marge
Et qui se sont sentis exclus ou qui se sont sentis
exclus, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas les femmes se sont, alors c'est vrai que ça nous a plus bénéficié puisque on a eu l'accès à la contraception. Les hommes ont un petit peu moins se sont moins impliqués dans cette libération sexuelle. C'est vraiment au niveau du sexe de la femme, du corps de la femme. On parle énormément maintenant du clitoris. Il y a eu beaucoup moins d'engouement vis-à-vis de la sexualité masculine. Et pourtant, il y a encore beaucoup de choses à comprendre au niveau de la sexualité et de l'érotique masculine.
Et est-ce que les hommes et les femmes, pour en revenir à l'article que vous aviez publié, parlent d'amour de la même manière? Ou aiment de la même manière?
Ils aiment de la même manière, ça, oui, de toute façon, hein. On reste humain, on aime tous de la même manière. On parlait tout à l'heure de l'exposition qui montre très très bien qu'il existe différents types d'amour. Donc moi, j'irais même plus loin, je dirais même pour un seul couple. Un couple va avoir plusieurs types d'amour au sein de sa vie. On va avoir l'amour romantique, le coup de foudre du début, puis il va changer au fur et à mesure en fonction de si on est partenaire, si on est parent, si on
construit un mariage ou l'amour de comment dire qu'on appelle maintenant des seigneurs du troisième âge, c'est pas du tout les mêmes les mêmes sentiments, les mêmes implications.
Et puis il y a tous les amours dont on ne parlait pas autrefois, homosexuels, bisexuels.
Voilà.
La parole là aussi s'est libérée, les actes aussi.
Exactement. Donc oui, les hommes et les femmes aiment de la même manière. L'amour est toujours les amours sont toujours les mêmes. La question est de savoir comment est-ce qu'ils en parlent, quelles sont les représentations qui sont autour. Et ça peut varier, ça varie beaucoup en fonction d'ailleurs des hommes et des femmes, mais aussi des cultures, des milieux socioculturels.
Des lieux géographiques aussi, parce que Marie Bergström, est-ce qu'il y a d'autres enquêtes comme celle que vous avez menée sur l'amour au temps du numérique, ou la sexualité, le couple, les rencontres, ailleurs dans le monde? Est-ce qu'on a commencé, d'autres sociologues comme vous ont commencé à exploiter, explorer toutes ces big data qui en disent beaucoup sur nous et nos amours?
Oui, tout à fait. Sur les recherches sur les rencontres en ligne, les nouveaux modes de rencontre, et on a aujourd'hui dans beaucoup de pays beaucoup de recherches aux États-Unis, parce que ce sont des services qui se sont développés là-bas. Donc il y a un champ de recherche nord-américain sur ce sujet. On trouve aussi des recherches en Allemagne notamment, et également dans les pays scandinaves. Donc effectivement, ce sont des regards aussi sur des formes de spécificité, mais qui sont encore à creuser, c'est-à-dire ce qui manque peut-être maintenant, ce sont des enquêtes internationales, c'est-à-dire de poser les mêmes questions dans plusieurs pays.
Et dans les pays du Sud, où les nouvelles technologies sont aussi très présentes.
Oui.
Autour de la question de l'amour, vous avez choisi, Aurore Malécaras, d'écouter une chanson d'amour, évidemment, il y avait le choix, mais vous avez choisi One Year of Love, signé Queen, on dirait pour commencer. Love, les Queens sur RFI. Merci pour ce joli choix, Aurore Malécaras. C'est pourquoi d'ailleurs? Pourquoi ce choix musical?
J'aime beaucoup Queen et je trouve que c'est une chanson qui englobe beaucoup de choses, avec justement le manque de la personne aimée à la fin d'une relation, avec toutes les états, enfin je trouve qu'on entend bien tous les états de manque qu'on retrouve à ça. Puis il parle de beaucoup de choses, il parle d'affection, il parle de sensualité. Voilà.
Une belle chanson d'amour, un beau slow, hein, comme vous l'avez dit, Marie Bergström. Est-ce que One Year of Love, un an d'amour, c'est beaucoup aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, ou c'est peu, un an?
Alors, c'est peu, on peut dire. Effectivement, j'ai dit au début de l'émission qu'un des changements majeurs, effectivement, au cours des dernières décennies, c'est l'augmentation des séparations. Donc ça, c'est vrai. Après, des séparations au bout d'un an, voilà, c'est très rapide. Donc, effectivement,
Je pense que parfois on exagère aussi l'instabilité amoureuse. Il y a beaucoup de couples qui se forment. Il y a certaines séparations, mais les gens se remettent aussi en couple. Et quand même, un an, c'est quand même pour un couple, en tout cas. Disons que c'est une séparation exceptionnellement rapide.
Donc, heureusement, nos rencontres sur Internet ou l'ère numérique n'a pas tout changé encore. Enfin, heureusement ou malheureusement, on ne sait pas. Parce qu'il y a pas, on va y revenir avec vous, Marie Bergström, mais on a parfois de fausses idées sur cet amour numérique qui n'induit pas les changements que l'on croit ou qui en induit d'autres. Vous avez parlé de romantisme et en même temps de rapidité des rencontres sexuelles. Vous avez également, Marie Bergström, collaboré à l'ouvrage qui accompagne l'exposition de l'amour, fragment d'un discours scientifique, avec notamment d'autres scientifiques, le neurobiologiste Francesco Bianchi De Micheli. Lui, il est professeur à la faculté de médecine et la faculté de psychologie de l'Université de Genève, responsable de l'unité de médecine sexuelle et sexologie au département de psychiatrie des hôpitaux de Genève. Et il nous entraîne dans ce très bel album dans un voyage au cœur du cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau amoureux? Pourquoi tout ça, c'est aussi et d'abord peut-être dans la tête? Petite neurobiologie de l'amour passionnel par le professeur Francesco Bianchi De Micheli, joint par téléphone à Genève par Inès Edel Garcia.
Souvent on pense que le cerveau amoureux, ça soit quelque chose de simple, de limité. En fait, c'est un feu d'artifice dans le cerveau. Il y a évidemment toute une série de régions corticales et sous-corticales qui s'activent. Les régions sous-corticales sont des régions qui sont impliquées surtout dans le circuit de la motivation et de la récompense. Et ce qu'on s'attendait, disons, parce qu'évidemment dans l'amour il y a un effet récompense et motivation qui est plus qu'évident en soi. Toutefois, à part ça, ce qui est, je pense, le plus intéressant, c'est voir comment des autres aires qui ne sont pas sous-corticales, mais vraiment corticales, s'activent aussi. Et c'est là la grande surprise, parce que notamment c'est des aires qui sont, par exemple, impliquées dans des fonctions supérieures, par exemple le gyrus angulaire. C'est un peu derrière l'oreille, à l'extérieur. Et en fait, cette aire est une des aires que je dirais qui soutient à des fonctions les plus sophistiquées, notamment par exemple dans le langage, dans la création des métaphores, dans les calculs mathématiques, dans la navigation cérébrale, c'est-à-dire quand on s'imagine quelque chose et on voyage dans l'imaginaire. Donc vous voyez, une structure qui amène l'amour dans un niveau de complexité très élevé. Il faut faire, je pense, remarquer qu'on ne va pas réduire l'amour à des aires cérébrales ni des neurotransmetteurs. On ne pourra jamais reconstruire la complexité d'un phénomène qui est à la fois neurophysiologique, bien sûr, mais aussi culturel, conceptuel, philosophique, émotionnel, et qui a son histoire et son vécu personnel et humain, à travers uniquement la description d'activation, désactivation cérébrale. Ça serait extrêmement réducteur et ne rendrait jamais la grandeur, la splendeur de ce qu'est l'amour.
Le professeur Francesco Bianchi De Micheli, interrogé par Inès Edel Garcia. Alors évidemment, il ne s'agit pas de réduire ce fantastique sentiment amoureux à un phénomène uniquement neurobiologique. Mais tout de même, c'est une grille de lecture, Aurore Malécaras. Vous êtes docteur en neurosciences et l'amour, mais la sexualité, ça commence dans le cerveau quand même.
Bien sûr, on dit toujours le plus gros organe sexuel, je dirais plutôt le plus gros organe érotique, c'est le cerveau. Évidemment, il a un rôle énorme à jouer au niveau de notre sexualité, ne serait-ce déjà que par rapport à la régulation des hormones.
C'est ça.
Puisque toute la régulation des hormones se fait au niveau du cerveau. Après, comme mon collègue l'a très bien expliqué, on ne peut pas réduire en fait la complexité de l'amour ou des amours, puisqu'on parle des amours, et comme on l'a vu dans l'exposition, à des activations cérébrales.
C'est une grille de lecture.
Fait, en science, ce qu'on fait, c'est qu'on va choisir un champ très précis, une question très particulière, et ensuite, on va explorer ce qui se passe au niveau du cerveau, en fait. Donc, par exemple, qu'est-ce qui se passe lors de la rupture amoureuse? Donc, en fait, on restreint énormément le champ pour que notre question soit la plus précise possible, pour qu'on puisse comprendre comment est-ce que ça marche, quelles sont les zones activées, quelles sont les zones qui ne s'activent pas, etc.
Et est-ce qu'on pourrait dire, ou est-ce que j'extrapole un peu, qu'on est fait pour être addict à l'amour, puisque ce professeur parlait du circuit de la récompense, de la motivation? Voilà, est-ce qu'on n'est pas de fait câblé pour être dépendant pour le pire, mais aussi pour le meilleur, à tous les amours, à tous nos amours.
Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, d'un point de vue évolutif, y a les espèces, enfin le vivant, a deux impératifs, survivre et se reproduire. En biologie, on appelle ça des pressions, des moteurs de sélection. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place d'un point de vue de comportement, d'un point de vue de l'évolution, mais aussi d'un point de vue de la biochimie du cerveau pour favoriser soit la survie, soit la reproduction. Donc évidemment, par exemple, la dopamine est centrale, le circuit de la récompense joue un rôle absolument central dans la sexualité, mais aussi dans l'amour. Et on sait que d'un point de vue normal, donc non pathologique, les sécrétions de dopamine lors d'un rapport sexuel correspondent au maximum de dopamine qu'on puisse avoir. Donc oui, pour répondre à votre question... Voilà, il y a un champ qui est extrêmement large, une autoroute pour de la dépendance autour du cerveau amoureux.
Marie Bergstrom.
Oui, je trouve que ce que l'exposition fait très bien, et c'est un véritable défi, mais auquel ils ont vraiment, elles ont vraiment répondu, c'est justement de montrer ces différentes facettes de l'approche scientifique de l'amour. Donc, effectivement, de voir qu'il y a une explication biologique neuroscientifique, il y a des éléments de réponse qui viennent de là, de la même manière qu'il y a un apport aussi de la sociologie, par exemple. Et justement, je trouve que c'est très intéressant. Chaque discipline montre une partie de l'histoire sans prétendre avoir épuisé le sujet. Et surtout, plus généralement, ce que montre cette exposition, c'est qu'on peut expliquer, comprendre l'amour d'un point de vue scientifique, ce qui ramène quelque part l'amour sur Terre. C'est-à-dire, on a longtemps eu un peu l'impression de parler d'amour comme si c'est quelque chose qui nous échappe forcément. Et c'est quelque chose un peu comme quelque chose de sacré, c'est-à-dire que quelque chose qui est de l'au-delà, qui est insaisissable. Et ce que montre l'exposition, c'est que non, l'amour fait partie de notre pratique, nos comportements, et de différentes manières, différentes sciences peuvent expliquer, peuvent comprendre ce phénomène qui n'est pas du tout quelque chose qui est inexplicable. Donc ça, c'est vraiment un défi.
On ne peut pas tout expliquer, mais on peut comprendre par morceaux, et du coup, on peut, c'est moins loin, et il n'y a plus de raison d'être uniquement dans cet amour romantique, et dans ces vision là, on peut fonctionner autrement et on peut regarder le reste du vivant, parce que autour de la question comment parler d'amour, il n'y a pas que les hommes et les femmes qui en parlent, qui l'écrivent, qui le chantent, qui le font, qui le subliment. Les autres animaux ne sont pas non plus en reste, surtout pour ce qui est de la séduction, comme nous va nous l'expliquer tout de suite la chercheuse Emmanuelle Pouydébat, qui était récemment notre invitée. Elle étudie l'évolution des comportements et des intelligences animales. On l'écoute.
L'amour dans le monde animal, on peut le voir de plein de manières différentes, je pense. Il y a évidemment des notions d'attachement entre certains individus qui vont passer plus de temps ensemble que d'autres. Ensuite, il y a énormément de séduction. Parce que quand même, pour survivre accessoirement, il faut faire des petits. Donc il y a énormément de séduction dans le monde animal. Alors est-ce que séduction égale amour, hein ? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est un mot-clé qui est rattaché à l'amour. Et dans la séduction, il y a des choses extraordinaires. Je pense à il y a deux animaux qui me viennent comme ça, parce que je suis tellement amoureuse de ces animaux-là. Vous voyez, il y a de l'amour. Notamment le mâle jardinier, c'est un petit oiseau. Alors selon les espèces, ils font différentes choses, mais il y a une espèce qui va faire des parterres de fleurs et de couleurs, sur des thématiques de couleurs, pour séduire la femelle, et c'est magnifique, avec des petites tonnelles. Il y en a un qui s'amuse à faire de la spermie, enfin s'amuse avec des millions de guillemets, hein. je suis pas sûre qu'il s'amuse tout le temps, mais en tout cas qui crée une espèce de tonnelle avec une perspective pour attirer la femelle. Et puis il y a ce petit poisson globe, moi je m'en lasse pas, je suis très amoureuse du poisson globe. C'est un petit poisson qui fait une dizaine de centimètres et qui au fond des océans, sur le sable, crée une rosace qui est absolument sublime. Je vous invite à aller voir ça sur internet, vous tapez poisson globe, vous tapez rosace et vous allez tomber dessus. C'est une rosace qui fait à peu près 2 mètres de diamètre, il met 7 à 9 jours quand même pour fabriquer cette rosace. Donc c'est des petits reliefs, c'est très 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 symétrique, c'est une œuvre d'art. Hein. Et en haut de ces petits reliefs, donc qui façonne avec ses nageoires, il va poser des petits coquillages, le tout pour attirer la femelle qui, si ça fonctionne, si, parce que, alors est-ce que c'est de l'amour, hein ? Certaines femelles vont être séduites, d'autres non. Hein, alors certains parleront plus probablement de potentiel reproducteur que d'amour, hein, mais en attendant, si ça fonctionne, la femelle va pondre au milieu de la rosace et on pense que ça protège aussi les œufs. Voilà, donc il y a plein d'exemples comme ça de séduction dans le monde animal. Le colibri risque presque sa vie pour séduire sa femelle avec un piquet nuptial à 100 km/h. Enfin, il y a beaucoup de séduction en tout cas, et d'amour proche. J'ai du mal à pas voir d'amour, hein, quand vous avez des individus qui sont collés et qui sont extrêmement attachés. Chez les manchots même, par exemple, il y a de la monogamie toute la vie, hein. Donc voilà, est-ce que c'est de l'amour ?
De l'amour ou pas, en tout cas ça y ressemble. Qui veut réagir, Marie Bergström, à cet éclairage?
Ben, je pense que ce qui est un peu la complexité de l'amour d'un point de vue scientifique, c'est que c'est pas par ce terme-là ou par cette notion-là que souvent que les différentes disciplines ont abordé la chose.
Bien sûr.
Souvent, en fait, selon les disciplines, on parle plutôt de l'attachement ou reproduction, et même en sociologie, on parle plus de couple, relation, que amour. Alors, parce que l'amour renvoie plus vers l'affectif, alors que la conjugalité et le relationnel, c'est quelque chose de plus au niveau du comportement. Donc, je pense qu'un des défis, encore une fois, de l'exposition, mais qui est vraiment
c'est
très
bien
réussi.
C'est de mettre l'amour comme un sujet scientifique.
Ben voilà, c'est-à-dire que si on prend l'amour, donc qui est une notion à la base non scientifique, comment est-ce qu'on peut apporter un éclairage original de point de vue de différentes disciplines?
Et j'ai envie de vous demander, Marie Bergström, après cette enquête donc sociologique sur nos nouvelles pratiques amoureuses liées aux plateformes numériques notamment, qui sont les grands gagnants, les grandes gagnantes, les grands perdants ou les grandes perdantes de ces nouvelles formes de séduction sur les plateformes, par SMS, sur les réseaux sociaux, du monde numérique?
Oui, effectivement, un des grands objectifs de mon travail, c'était de montrer qu'il y a différentes manières d'utiliser ces services, différentes raisons pourquoi on vient sur ces plateformes. Et effectivement, on a différentes expériences et on constate aussi des inégalités. Donc, ça veut dire que tout le monde n'a pas les mêmes chances de faire des rencontres. Tout le monde ne trouve pas le bonheur, entre guillemets, sur ces espaces. Et donc, des inégalités, par exemple, on peut souligner différentes choses. Mais par exemple, il y a des inégalités en termes d'âge. Qui sont un peu différents pour les hommes et les femmes. C'est-à-dire que si on regarde les jeunes, c'est plutôt les jeunes hommes qui ont du mal à rencontrer des partenaires, parce que les femmes de leur âge s'intéressent plutôt à des hommes plus âgés.
Ah, donc les jeunes hommes seraient un peu pénalisés
oui,
sur les sites de rencontres.
Oui, tout à fait, ça c'est très net. Je parle de très jeunes hommes, donc voilà, donc à 18, 19, 20 ans, on constate, ils le disent eux-mêmes assez clairement, que beaucoup d'entre eux n'arrivent pas ou ont de mal à interagir et créer des contacts avec des femmes, parce que les femmes dans ce groupe d'âge-là s'intéressent plutôt à des hommes de 21, 22, 23, 24 ans.
On reproduit un peu les mêmes schémas, hein, finalement.
Voilà, donc
mais
ça, c'est effectivement, ça c'est une tendance. En sociologie, on parle ça l'écart d'âge des conjoints, des partenaires, qui est une tendance vraiment très forte à la fois à travers le temps et l'espace. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui a été bouleversé par les sites et les applications de rencontres. Au contraire, on trouve un peu ce schéma et cette représentation qu'on croit le partenaire masculin est un peu plus âgé que sa partenaire. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve sur Internet.
Et puis, du côté des femmes, c'est pareil. Hein. Les mœurs ont évolué, les rencontres se font peut-être plus facilement. Mais enfin, vaut mieux pas être une femme qui a dépassé la cinquantaine pour rencontrer sur les plateformes de rencontres. Hein.
Alors, il y a des rencontres qui sont à ces âges-là, donc il faut pas trop schématiser.
D'accord.
En revanche, effectivement, on voit une autre tendance lorsqu'on monte dans les âges, qui est que donc chez les jeunes, il y a plus voilà, les hommes sont plus souvent célibataires et voilà et ont moins plus de mal à rencontrer avec des femmes. Effectivement, à l'autre pôle des âges, c'est plutôt les femmes qui ont plus de mal à initier des contacts parce que les hommes à ce moment-là ont un intérêt pour des femmes un peu plus jeunes. Donc effectivement, on a des formes de d'exclusion, ces formes, en tout cas plus de tension au pôle des âges. Donc chez les jeunes, c'est plutôt les hommes qui se sont dans une position défavorisée. Et lorsqu'on monte dans l'échelle des âges, c'est plutôt les femmes. Et encore une fois, ça, rien de nouveau avec Internet.
Ça n'a pas changé.
Ça, c'est une tendance démographique et sociologique sur la mise en couple et l'écart d'âge entre les partenaires qui existe depuis, je veux dire, quand on remonte historiquement, en fait, c'est une tendance extrêmement longue et on le trouve dans la plupart des pays et on le retrouve sur Internet. Donc, il n'y a pas du tout de nouveau ou de nouvelles exclusions de ce point de vue-là avec Internet. C'est plutôt une tendance de long terme.
Enfin, il y a toujours les mêmes inégalités. Alors, à ce sujet, justement, je propose une nouvelle question. Elle n'est soulevée ni par un jeune homme, ni par une femme d'un certain âge. Elle est soulevée par une très jeune femme qui est historienne, vidéaste, et vulgarisatrice de science sur sa chaîne YouTube C'est toute une histoire. Je veux parler de Manon Bril qui a une question à vous poser.
Alors du coup, j'imagine, bon ça doit être très bateau comme question, mais autant la poser. Est-ce que ça marche, Mythique? Et est-ce que... Moi j'ai l'impression des quelques expériences de date que j'ai eues dans ma vie que ça peut pas fonctionner pour moi. C'est-à-dire, bon, pour une histoire d'un soir, ok, mais pour rencontrer quelqu'un, j'ai l'impression que pour moi, ça peut pas marcher. Alors, je sais, je connais des gens pour qui c'est arrivé et tout, ils sont quand même assez rares. Mais il y a un truc dans ce dispositif qui fait que, pour moi, ça tue dans l'œuf l'étincelle qui me fait accrocher dans une relation. Voilà, donc il y a peut-être un truc psychologique, neurologique, j'en sais rien là-dessous. Mais du coup, est-ce que ça a été étudié? Est-ce qu'on l'explique? Est-ce que j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup comme ça? C'est pas tout le monde, puisqu'en effet, je connais des couples qui se sont formés sur des applis de rencontre. Mais moi, vraiment, j'ai l'impression que le fonctionnement ne pourra pas prendre avec le mien, en tout cas.
Que pouvez-vous en dire? Non, pas un diagnostic, hein, bien sûr, Marie-Bertrand, mais que pouvez-vous répondre à cette jeune femme?
C'est assez simple, finalement. C'est la question derrière cette question. Est-ce que ça marche? Si c'est de savoir, est-ce qu'il y a des couples qui se forment par ce biais? La réponse est très clairement oui. Aujourd'hui, les sites, les applications de rencontres sont devenus parmi un des modes de rencontres les plus importants en France. Donc, et aujourd'hui, ils participent pleinement à la formation des couples. Il y a beaucoup d'unions qui commencent sur ces plateformes. Et encore une fois, pour revenir sur cette question, il y a de dire qu'il y a des différences. Mm-hmm. Je pense que c'est important de dire que ça dépend aussi de dans quel âge de la vie on est. Mm-hmm. En fait, on ne va pas sur ces services pour les mêmes raisons selon qu'on a 22 ans, 30 ans, 40 ans ou plus. C'est-à-dire il y a différentes aspirations. Et ce qu'on constate chez les jeunes, on voit effectivement un usage souvent qui est plus sexuel. Parce qu'à cet âge-là, l'enjeu, ce n'est pas forcément de se mettre en couple. On veut un peu vivre des choses, expérimenter.
Et là, au fond, on en a la possibilité.
Voilà, tout à fait. Parce qu'il y a cette idée qu'il faut profiter de sa jeunesse et les jeunes le décrivent même un peu comme une liberté en sursis. C'est le moment pour expérimenter avant de se ranger. Cette idée est toujours très forte. Quand on est dans la trentaine et quarantaine, en fait, l'enjeu conjugal est beaucoup plus fort et il y a souvent une très forte aspiration à vivre en couple.
Mmh.
Et
on du veut coup, trouver l'usage, un partenaire.
Voilà. Et du coup, l'usage change aussi. Et là, on voit aussi plus de couples qui se forment. Donc parfois, je pense qu'on regarde trop les jeunes. Et en fait, on fait un diagnostic des rencontres en ligne en fonction des jeunes. Mais les jeunes font un usage assez particulier de ces services. Il y a d'autres manières de les utiliser et il y a d'autres aspirations associées à l'usage et aussi autres expériences.
Je ne saurais trop renvoyer à votre livre que je trouvais passionnant sur justement les nouvelles lois de l'amour. Aurore Malécaras, qu'est-ce que vous en pensez pour terminer à la réaction justement de Manon Bril ou à ce « ça marche ou pas »« Est-ce qu'il faut que ça marche ?» Est-ce que c'est aussi varié et divers et finalement il y a des changements mais qui ne sont pas toujours ceux qu'on croit ? Quelle serait votre conclusion, j'ai envie de dire, parce qu'on arrive à la fin de l'histoire.
Je renverrai à ce qu'a dit Marie sur ça dépend des usages qu'on veut en faire, quelles sont nos envies, quels sont nos besoins. C'est vraiment sur ça qu'il faut vraiment se concentrer. D'après moi, ce que j'entends de ce que la jeune fille a dit, c'était que il y a quelque chose qui ne fait pas forcément rêver dans les sites de rencontres, puisque comme Marie l'a dit, on a une rencontre qui est très factuelle, très objective de la personne, et c'est vrai que du coup, si on a plus envie, quelque chose de beaucoup plus romantique, de tomber amoureux au premier regards, etc. C'est vrai que du coup le site de rencontre peut être un petit peu froid par rapport à ça.
Et oui, il empêche l'imaginaire ou le...
Je ne dirais pas qu'il empêche l'imaginaire parce qu'on peut toujours fantasmer. D'accord. Vis-à-vis d'un profil de quelque chose comme ça, mais c'est vrai que on est quand même des animaux, on a quand même toute une biologie, toute une chimie qui se met en branle quand on rencontre un partenaire. Et c'est vrai que quand on est face à un écran d'ordinateur, tout l'aspect sensoriel n'est pas là. Donc du coup, c'est vrai que si, encore une fois, ça dépend ce qu'on veut, ce qu'on recherche, ce dont on a besoin. Si c'est des aspects plutôt sensoriels qu'on recherche, c'est vrai que du coup, une rencontre froide à travers un ordinateur.
À nous de voir l'amour de l'amour. C'est donc une exposition à voir si vous passez par Paris jusqu'au 30 août 2020 au Palais de la Découverte. Il y a aussi donc le très instructif catalogue de l'exposition de l'amour, fragment d'un discours scientifique, édité par Univers Sciences chez Actes Sud. Et bien sûr, votre ouvrage, Marie Bergström, à lire absolument aux éditions La Découverte, Les Nouvelles Lois de l'amour. Merci, Aurore Malécaras.
Merci à vous.
Merci Marie Bergström d'être venue partager un peu d'amour dans notre studio. À noter que cette exposition de l'amour vient d'être prolongée jusqu'au 27 septembre au Palais de la Découverte à Paris, ce qui devrait bien arranger nos affaires de cœur avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, Caroline Lachowski au micro pour vous servir. On se retrouve demain par la magie des ondes pour écouter un formidable empêcheur de penser en rond, le physicien quantique et philosophe Carlo Rovelli, autour de la question comment garder l'esprit libre et ouvert. Tiens, vous en saurez plus demain. Chers amis auditeurs et auditrices, merci pour votre curiosité. Prenez soin de vous et des autres avec amour. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations.